I have a dream.
It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans l'Amérique et vous, édition du vendredi 12 avril 2024. Vous êtes sur VOA Afrique, nous émettons depuis Washington DC, la capitale fédérale des États-Unis. Ce soir, nous parlons des levées de fonds réalisées par les candidats à l'élection présidentielle américaine. Le 5 avril dernier, l'ancien président Donald Trump a récolté plus de 50 millions de dollars lors d'une soirée en Floride. Lui et son rival Joe Biden sont engagés depuis des mois dans une course aux millions de dollars, partageant régulièrement des communiqués laudatifs sur l'état de leurs finances. Nous en parlons avec nos invités Dennis Beaver. Il est avocat, il est basé en Californie. Bonsoir Dennis Beaver.
Bonjour, de Californie.
De Californie, voilà, où il est actuellement midi, je crois. Alors, on a Lazis Charé, lui est enseignant de linguistique et d'anthropologie au St. John's University à New York. Bonsoir Lazis.
Bonsoir à tous les invités. Je suis là.
Voilà.
Merci, Madou. Merci.
Alors, nous aurons aussi Junior Bonpetit. Il est militant républicain. Il est fondateur du mouvement Congolese for Trump. Bonsoir, Junior Bonpetit.
Bonsoir, bonsoir, mon frère, et bonsoir à tout le monde.
Voilà. Merci. On retrouve tous nos invités dans quelques instants pour démarrer les échanges.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Voilà, vous écoutez donc l'Amérique et vous, édition du vendredi 12 avril 2024. Nous émettons depuis Washington, d'ici la capitale fédérale des États-Unis. Alors, nos invités sont déjà connectés, ils sont en ligne. On va commencer par Junior Bonpetit qui est au Texas. Alors, Junior Bonpetit, vous êtes militant républicain. Je rappelle que vous étiez en Floride le 5 avril dernier lorsque le président Donald Trump a organisé sa collecte de fonds où il a récolté plus de 50 millions de dollars. Junior Bonpetit, racontez-nous comment vous avez effectué le voyage, ce qui s'est passé là-bas. Quel a été vos constats?
Merci beaucoup pour la question. Ben, sinon, le constat était bon, l'ambiance était patriotique. Et des compatriotes sont déplacés partout de quatre coins des États-Unis pour soutenir le candidat républicain auquel nous croyons, à ses valeurs, à sa vision pour les États-Unis. Et nous avons vu pendant ces quatre ans ce qu'il a pu faire. Alors c'était de notre devoir de aussi mettre la main dans la poche et soutenir. Et c'est encore un exemple pour les dirigeants africains et les militants de soutenir la vision, soutenir les chefs, vos dirigeants, vos futurs dirigeants, parce qu'ils seront redevables à vous si ces derniers se financent eux-mêmes. Ils n'ont le compte à rendre à personne. Alors nous étions là pour soutenir notre candidat parce qu'il a besoin de moyens pour se déplacer dans cet immense pays et sous-continent. Donc l'ambiance était patriotique et tout le monde était convivial de contribuer à cette gala de récolte de fonds.
Alors, Junior Bonpetit, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ce jour-là? Est-ce que les gens sont venus avec de l'argent? Comment ça s'est passé la collecte? Comment ça a été organisé tout cela? Essayez de nous faire vivre l'ambiance, ce qui s'est passé ce jour-là, le 5 avril, en Floride.
Bon, d'abord, les gens ne viennent pas avec l'argent, les cash ici. Ici, c'est de ça des tables. Il y a eu des tables tout proche du chef du Trump. Il y avait des tables de 100 000 dollars, de 50 000 dollars, de 25 000 dollars. En tout cas, le billet moyen, c'était à 1 500 dollars. Et il y avait un gala, un dîner, et il y avait des discours patriotes. Et le président Trump a parlé, il y avait d'autres compatriotes aussi ont parlé. C'était vraiment la vision. On doit mobiliser, on doit faire la campagne et montrer aux gens l'importance de ces élections qui viennent. Mais sinon, on ne vient pas avec les cash. Hein. On s'était déjà payé bien avant. on vient juste participer, la sécurité était là, parce qu'on doit passer par tout ça, on vient juste pour célébrer, mais sinon tout s'est fait électroniquement, on ne vient pas avec le cash.
Ok, merci beaucoup pour ce témoignage, Junior Bonpetit. Je ne vais pas vous demander combien vous avez contribué, ou alors vous pouvez nous dire, vous avez pris une table de 1 500 $, c'est ça?
Non, je garde ça pour
voilà. Oh, merci bien, Junior Bonpetit. Alors, on va aller en Californie retrouver Denis Beaver. Alors, Denis Beaver, vous avez une très longue expérience avec votre âge. Vous avez certainement déjà participé à des levées de fonds ou vous avez contribué à des campagnes électorales financièrement. Racontez-nous.
Dire la vérité, non. Seulement sur, disons, les offices plus ou moins locaux dans notre ville, par exemple, procureur ou les juges, on n'a jamais contribué, pour le président ou les sénateurs et les gens comme ça. Ça nous dit rien, puisque on sait très bien que c'est vraiment, comme on dit, play to pay. Hein. Tu veux quelque chose, tu donnes beaucoup d'argent, des millions de dollars, et voilà, tu es ambassadeur pour un pays quelconque. Ni ma femme et moi, on n'est pas du tout intéressés par ça. Oui, on vote, on pense que c'est vachement important, mais donner du fric, disons, avec tant de corruption, merci, non.
Voilà. Laziz Charré, à New York, merci donc de nous rejoindre. Alors, vous, est-ce que vous participeriez à une levée de fonds? Comment est-ce que vous compreniez ces opérations? Est-ce que c'est vraiment important pour, selon vous?
Bon, vous savez, les élections aux États-Unis, c'est beaucoup d'argent. Si je m'en tiens aux proportions par rapport aux contributions entre 2000 et 2024, nous sommes partis de 3,5 milliards de contributions à 17 milliards en 2024. Ça veut dire que les élections aujourd'hui se gagnent à travers la bourse. Si vous n'avez pas les moyens, vous n'allez pas gagner les élections. Donc, à partir de l'arrivée du président Obama, on a vu l'explosion des contributions personnelles. Et je veux dire qu'il y a au moins 4 paliers de contributions aux États-Unis, les contributions individuelles, les contributions de PAC et de Super PAC, et aussi d'autres contributions. Donc, ce que je veux dire ici, en termes de prévision de qui peut gagner les élections, on évalue ça à partir des contributions de chaque parti. Et quand on essaye de voir, on voit bien que le président Biden, en 2020, n'est-ce pas, a dépensé 1 milliard de dollars pour gagner les élections en 2020. Ce qui veut dire qu'en 2024, il y a des sens qui dépensent un peu plus. Pour dire que, voilà, personnellement, je suis démocrate et je suis très à l'aise avec la politique, n'est-ce pas, des progressistes, n'est-ce pas, au Parti démocrate, en sorte que, voilà, si vous voyez toutes les avancées, n'est-ce pas, dans la vie américaine, c'est par rapport à toutes ces luttes, que ce soit les luttes pour les droits civiques, que ce soit les luttes, n'est-ce pas, pour les droits de vote, autant de choses, parce que les démocrates, c'est le rassemblement de tout le monde. C'est un peu comme le parti du reste du monde. C'est pour cela que nous sommes tellement enthousiastes à l'intérieur, n'est-ce pas, du Parti démocrate. Et je pense qu'ils sont un peu plus tolérants par rapport à ceux qui sont différents, n'est-ce pas, de l'Amérique profonde. Et voilà l'une des raisons pour lesquelles les immigrants, comme quand nous venons ici, nous sommes bien accueillis au sein du Parti démocrate, parce qu'on a bien l'impression que les États-Unis étant un melting pot, nous avons une place à la table. Et on retrouve sur la table des gens qui ressemblent à nous. Par rapport à l'intellect, on peut donc contribuer à la politique américaine sans aucun problème.
Voilà. On revient vers Junior Bonpetit. Alors, Junior Bonpetit, vous étiez donc en Californie le 5 avril. Dites-nous, qui sont ces personnes qui viennent contribuer? Pour quelles raisons contribuent ces personnes? On imagine qu'il y a des gens qui arrivent là-bas, qui veulent contribuer, parce que si le président gagne, ils auront un intérêt derrière. Qui sont les contributeurs et pour quelles raisons contribuent-ils, selon vous?
Les contributeurs sont des personnes comme moi, hein, des personnes normales comme moi, des personnes qui ont des convictions, des personnes qui croient à la vision des républicains et amenées par le président Donald J. Trump. Ce sont des personnes normales, hein, ce ne sont pas des extraterrestres. Et puis, c'est comme ça, quoi. Nous, ils mettent, les gens viennent, les hommes, les femmes, les entrepreneurs, les gens de divers domaines. Ils viennent, ils contribuent, ils sont là, et c'était vraiment une très belle ambiance. Et je veux dire, il n'y a pas une catégorie comme ça de personnes. C'est vraiment des personnes de tout niveau.
Quoi. Oui, mais Junior Bonpetit, vous aviez dit que pour avoir une table proche de Donald Trump, il fallait avoir beaucoup plus d'argent. On imagine que quelqu'un qui contribue $1 million, ce n'est certainement pas pour le simple soutien au président, non?
Ben, écoute, nous sommes dans un monde d'intérêt, chacun de nous à son niveau. Il y a des riches, il y a des pauvres. On ne contribue pas tous au même niveau. Même dans une entreprise, on n'est pas tous payés, on n'a pas tous les mêmes chèques, les mêmes salaires. Vous voyez, chacun à son niveau. Alors, chacun a ses visées, a son agenda. Nous, nous sommes partis, nous avons aussi un agenda. Je ne suis pas parti pour les beaux yeux. J'ai aussi un agenda pour mon organisation et pour mon pays d'origine, la RDC. Donc, quand je fais des choses, je contribue aussi pour avoir des positionnements plus tard. Oui, donc c'est pas pour les beaux yeux, quoi. Il y a toujours un agenda derrière.
Alors, Dennis Beaver, le militant républicain, vient de nous dire qu'il n'est pas allé pour ses beaux yeux. Alors, ça veut dire que les candidats, quand même, ils se sentent redevables vis-à-vis des donateurs, notamment des gros donateurs. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, on essaye toujours... être dans la lumière des politiciens. Et là, avec du fric, alors tu achètes l'entrée. La porte est ouverte. Là, les portes sont ouvertes pour vous. Le problème dans ce pays, c'est qu'on peut effectivement acheter une élection. Ça n'a pas marché avec Clinton et Trump, mais a priori, celui qui dépense le plus, il a beaucoup plus de possibilités, de chances de gagner. Et ça, on pense que c'est vraiment ça.
Oui.
Il y a beaucoup de pubs mensongères, negative advertising, comme on dit. Et on essaye souvent d'éviter les vraies questions, les questions importantes. Donc, c'est voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est vraiment ça, tout ça.
Alors, Lazis Chari, est-ce que les présidents, les candidats, une fois qu'ils ont gagné, est-ce qu'ils sont redevables vis-à-vis des contributeurs? On sait que, par exemple, notre ami Junior Bonpetit est allé parce qu'il défend les intérêts de sa communauté, hein, afro, et puis du Congo. Est-ce que, si le président Donald Trump gagne, est-ce qu'il a, il est redevable? Est-ce qu'il se doit d'agir? Qu'est-ce qui pourrait être l'intérêt des candidats de renvoyer l'ascenseur? Quelle est votre analyse à ce sujet?
Bon, personnellement, je ne suis pas républicain, donc je ne peux pas contribuer pour Donald Trump. Mais si je ne peux m'en tenir, n'est-ce pas, qu'aux deux élections où j'ai été directement impliqué, que ce soit l'élection du président Obama et après l'élection du président Joe Biden, généralement, les luttes progressistes, c'est pour tenir compte, par exemple, des sujets comme l'immigration, c'est pour tenir compte des sujets comme la réduction de la dette au sein, n'est-ce pas, de la population estudiantine, parce que les études aux États-Unis, ça coûte beaucoup plus cher. Ce qui fait en sorte que la gauche est mobilisée pour faciliter, n'est-ce pas, l'intégration et des immigrés et ensuite des jeunes étudiants qui se battent pour intégrer la société américaine. Et on se dit que ce sont les démocrates qui sont beaucoup plus amenables, n'est-ce pas, à influer sur ce genre de décision. Malheureusement, les conservateurs regarde beaucoup plus, n'est-ce pas, les entrepreneurs et les milliardaires. On a bien l'impression que le Parti démocrate est beaucoup plus rassembleur que le Parti républicain. Donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles la majorité de ceux qui arrivent ici au sein de la population immigrée va vers les démocrates parce qu'ils vont discuter amplement des questions d'immigration, des questions d'intégration, des questions, n'est-ce pas, de l'intégration au niveau de l'université. Et des questions des minorités qui ne sont pas souvent à la première ligne de défense, n'est-ce pas, des républicains. Voilà pourquoi on a bien l'impression que les démocrates rassemblent beaucoup plus large pour ne pas avoir une très grande majorité et impliquée au niveau du Congrès et du Sénat, parce que tout se décide au niveau du Congrès et du Sénat après l'élection du président. Donc les contributions, les petites, peuvent, n'est-ce pas, basculer par rapport aux contributions des milliardaires conservateurs. Voilà pourquoi Obama a réussi en 2008 et voilà pourquoi Joe Biden a également réussi en 2020, parce qu'ils ont été capables de rassembler le plus largement possible, et c'est pour cela que les démocrates ont beaucoup plus de force et plus de chance de gagner les prochaines élections qui arrivent.
Junior Bonpetit, à quoi sert tout cet argent? Les candidats collectent des millions de dollars auprès des électeurs, de leurs partisans. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent, Junior Bonpetit?
Merci pour la question, mais avant, permettez-moi de revenir sur ce que le frère a dit, et je m'inscris en faux, parce que nous avons vu pendant l'élection, le mandat de Donald Trump, il a augmenté les fonds alloués au collège de Noirs. Il a beaucoup donné, beaucoup plus de fonds, contrairement à Barack Obama. Président Trump a donné l'opportunité aux immigrés avec les school choice, le choix de l'école. Il a donné l'opportunité avec Opportunity Zone pour le noir. Nous ne voulons pas, les républicains, la vision, nous ne voulons pas garder la minorité dans un certain niveau de pauvreté et dépendre du gouvernement. C'est ce que les démocrates ont toujours prêché et ont eu pendant plusieurs années à corrompre le mental de certains noirs. Et maintenant, le noir, les minorités, se réveillent. Nous sommes aux États-Unis pour l'American Dream, pour le rêve américain. Nous ne sommes pas venus pour dépendre d'un gouvernement, nous donner quoi manger. Oui, ça c'est une mentalité rétrograde et nous changeons. Et les Noirs, les minorités sont réveillés par rapport à ça. Alors, je vais revenir à votre question, c'est que l'argent, ce n'est pas pour des besoins personnels d'un candidat. L'argent a besoin, le candidat a besoin de voyager avec son équipe, a besoin d'envoyer les SMS, a besoin d'envoyer les tracts, et tout ça demande de l'argent. On ne peut rien faire sans argent. Il y a une expression qui dit « American is green ». Donc, tout c'est l'argent, c'est les dollars pour arriver à un objectif. Nous devons financer ce que nous devons faire. Et ça ne doit pas sortir de la poche d'un candidat. Sinon, une fois élu, il aura le compte à rendre à personne. Alors, pour être redevable, il doit savoir si je suis là parce que j'ai eu des contribuables et je suis redevable à eux, parce que c'est le peuple d'abord.
Alors, Denis Beaver, l'argent sert donc à beaucoup de choses, à financer les spots publicitaires qui passent sur les médias, à payer les déplacements des militants et tout cela. Mais est-ce qu'il y a des gens qui contrôlent cet argent? Par exemple, il y a une polémique actuellement, on se dit qu'une partie de l'argent collecté par les républicains sert à payer les avocats de Donald Trump qui est embourbé dans de multiples procédures judiciaires. Qu'est-ce que vous en pensez du fait que l'argent dépensé peut être utilisé à d'autres fins? Qui contrôle cet argent? Quel est votre avis à ce sujet?
C'est une très bonne question et il n'y a pas de réponse nette, puisque Trump, il dit « Oui, bon, c'est mon argent, je peux payer mes avocats avec ça. » C'est pas très clair, en fait, c'est pas très clair, mais la plupart de cet argent, c'est pour la pub, pour les galas, les trucs comme ça. Tu sais que n'importe qui, dans le monde des politiques, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est le pouvoir, c'est le pouvoir, c'est ce qu'ils cherchent. Du pognon, ok, à la limite, puisque ça ouvre les portes. Mais il y a très, à mon avis, il y a très peu de contrôle. Et c'est toujours, on regarde dans l'arrière. Ah, il a dépensé ça il y a 2-3 ans. Donc c'est pas très bien contrôlé, selon ce que je comprends.
Vladis Charry, qu'est-ce que vous, votre avis sur le contrôle des dépenses? Et puis peut-être aussi, après cela, vous allez nous dire, est-ce que nos pays africains peuvent s'inspirer de ces levées de fonds? On constate que au Cameroun, au Sénégal, et maintenant même au Tchad, hein, les candidats appellent leurs partisans à cotiser, à contribuer. Qu'est-ce que vous pensez de ces levées de fonds qui commencent à se développer un peu partout en Afrique avec l'avènement des technologies?
Oui, donc c'est très important d'initier des stratégies, n'est-ce pas, de levée de fonds dans des partis politiques déjà, parce que ça facilite, n'est-ce pas, la mobilisation de la population en faveur de leurs candidats. Et c'est transparent parce qu'il y a des lois qui organisent, n'est-ce pas, ces contributions. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs types de contributions. Il y a des contributions personnelles, il y a des contributions des PAC et des super PAC. Au niveau des super PAC, ils peuvent contribuer de manière infinie, n'est-ce pas? La Cour suprême a décidé au niveau des super PAC qu'on pouvait contribuer de manière infinie, et c'est ça qui pose le problème, la contribution au niveau des campagnes électorales ici aux États-Unis. Donc, alors, personnellement, ce que je pense, c'est que si, dans un système compliqué comme ce que nous avons aux États-Unis, qui a un système bipartisan, l'argent devient le nerf de la guerre, cela mobilise la population pour contrôler, n'est-ce pas, le système électoral de manière à prévaloir à la fin des élections. Mais si on commet l'erreur, n'est-ce pas, de dépendre uniquement d'argent, à la fin, le vote populaire n'aura plus de sens. Parce que vous aurez au pouvoir des gens contrôlés, n'est-ce pas, par des groupes d'intérêts qui ne vont pas développer les intérêts de la population. C'est le danger que court le système électoral américain où vous avez le vote populaire et le vote du collège électoral. Donc, à mon avis, les démocrates, comme je viens de dire tout à l'heure, ils ne sont pas là uniquement pour donner les handouts. Parce que j'ai suivi l'intervention de notre frère qui dit que voilà, les démocrates, c'est pour distribuer de l'argent aux pauvres et faire en sorte que les gens soient paresseux. Ce n'est pas vrai. Parce que vous savez qu'il y a un racisme systémique, n'est-ce pas, qui biaise, n'est-ce pas, la réussite, n'est-ce pas, contre les minorités aux États-Unis. Ça, c'est un fait. On ne peut pas nier cela. Si vous lisez un document comme The New Jim Crow, vous allez voir que le système de mass incarceration qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire quand on envoie des Noirs en prison tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer les avocats, c'est une discrimination négative qui impacte dans leur vie et à vie. Et ils sont complètement exclus du système. À quoi servirait votre argent si vous êtes le potentiel prisonnier, tout simplement parce que le système judiciaire est défavorable aux minorités et aux Noirs. Donc voilà un problème qu'on essaie de corriger en essayant de faire des réformes au niveau du système carcéral. Et ce sont les démocrates, les progressistes, les professeurs d'université qui mettent en avant ce genre de problème. Et les républicains n'ont pas ce temps. Ils ont le temps uniquement des top 1%, donc c'est-à-dire ceux qui sont des milliardaires comme Donald Trump. Et alors, ce qui me surprend, voilà un président qui est coincé, n'est-ce pas, dans des batailles judiciaires et il n'a aucune chance de s'en sortir, mais on nous donne l'impression qu'il sera là pour sauver la minorité noire. Je ne suis pas convaincu qu'il pourra, n'est-ce pas, délivrer ses promesses quand il sera coincé dans les batailles judiciaires.
Oui. Alors, Junior Bonpetit, quelle est la situation financière du Parti républicain aujourd'hui? On sait qu'en une seule soirée, c'est un record. Donald Trump, le Parti républicain, a pu collecter 50 millions de dollars, mais les démocrates semblent en bien meilleure posture en termes de collecte d'argent. Quelle est la situation dans votre parti?
Alors, merci pour la question. J'aimerais encore glisser un mot sur ce que le frère a dit. C'est que le système carcéral, le système judiciaire à la contre de minorités, ça a été promu par qui? Par Biden en 94, en 1974, et mis en application par Clinton. Et tout le monde le sait. Il faut se renseigner par l'histoire. C'est Biden, c'est les démocrates. Et les partis républicains, depuis l'histoire, a été toujours là pour les minorités, pour les noirs. Et même pendant la période d'esclavage, c'était toujours les républicains qui étaient pour le noir, pour libérer les noirs de l'esclavage. Et ça, c'est connu de tous. Donc, faut pas nous leurrer dans ça. Alors, le parti républicain est en bonne position et tout le monde donne. Nous n'avons pas un conflit avec ceux qui sont riches parce que ce pays, c'est l'American Dream is real. Les rêves américains sont réels et la chance est donnée à tout le monde. Donc, on n'a pas à avoir un conflit parce que les gens sont des milliardaires, sont des millionnaires, et que vous avez des membres sympathisants qui n'ont pas quelque chose que vous voulez promouvoir un certain équilibre. Nous sommes en bonne position financièrement et nous sommes en train de continuer. Nous sommes à 6 mois des élections et tout le monde, chaque militant est conscient de donner quelque chose, 5 dollars, 10 dollars, 100 dollars par rapport à ses moyens pour contribuer à l'élection et pour que notre chef puisse gagner. Donc, là, c'est conscient, c'est dans notre conscience de contribuer. Il y a cette discrimination, il y a cette étiquette-là, parce que c'est le noir, parce que c'est le blanc. Non, le système carcéral aux États-Unis a été mis en place par Biden et implémenté par Clinton. Et tout le monde le sait.
Merci beaucoup, Junior Bonpetit, hein, militant républicain, fondateur du mouvement Congolais for Trump. Merci également à Denis Beaver, avocat en Californie, qui était avec nous. Et Laziz Charé, il est enseignant de linguistique et d'anthropologie au St. John's University à New York. C'est la fin de cette édition de L'Amérique et vous. À la présentation, Mouamadou Oumtra. À la production, Georges Léonard Sagnon, l'homme au doigté magique qui était là, qui a permis le succès de ce programme. On reste en contact sur la page Facebook de VOA Afrique. Cette émission est à retrouver sur notre site web voaafrique.com. Dans quelques instants, une édition complète d'informations, Le Monde aujourd'hui. Au revoir.